Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional, filière bois dans le Rhône, l'ONF, Office national des forêts, gestionnaire des forêts des collectivités, le point avec Guillaume Béal, responsable ONF de l'unité territoriale du Rhône. Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, nouveau, l'accueil d'une école de production sur le site de la pépinière d'entreprise Créacité. Toutes les explications avec Myriam Cady, vice-présidente au développement économique, à l'emploi, l'insertion et à la formation pour l'agglomération VBS. Et enfin, à Glizé, l'artiste Jean-Philippe Aubanel expose au hangar 717 Calade, le journal. Fin de vie, délicate affaire. Le Comité consultatif national d'éthique ouvre la voie à une aide active à mourir strictement encadrée. Extrait d'un article de Béatrice Jérôme pour le journal Le Monde. Dans son avis majoritaire, le CCNE en trouve la voie avec une très grande parcimonie à une évolution vers une aide active à mourir, sans se prononcer sur l'opportunité d'une loi. Si le législateur décide de légiférer, il devrait autoriser l'aide à mourir dans certaines situations seulement. Le comité d'éthique suggère ainsi la possibilité d'un accès légal à une assistance au suicide pour les personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques et psychiques réfractaires dont le pronostic est engagé à moyen terme. Implicitement, il ne préconise donc pas la possibilité de légaliser le droit à mourir pour des personnes considérées comme étant en fin de vie, à court terme, voire en perte d'autonomie. S'agissant de l'accès légal à l'euthanasie, en clair, la possibilité de l'acte médical de donner la mort, il estime qu'il pourrait être ouvert uniquement pour les personnes qui ne sont pas physiquement aptes à un tel geste. Mais il affirme aussi que la décision médicale de ce geste pourrait être laissée à l'appréciation du juge. Pour maîtriser sa mort, comme on maîtrise sa vie, cette revendication jugée choquante a fait son chemin. C'est un chemin et un débat serein qu'il nous faut continuer dignement, nous disait Cécile Prieur dans son édito pour l'Obs en 2021. Peut-on continuer à laisser faire ça sous le manteau en France? Sujet sensible et une question éthique majeure. Dans la balance entre l'impératif religieux de ne pas porter atteinte à la vie et le désir de pouvoir disposer de soi jusqu'au bout, signe de liberté. Au programme des discussions et réflexions prochaines, le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie dès octobre pour une durée d'environ 6 mois. Rhône, filière bois, ONF, l'Office national des forêts, un triptyque qui ne doit pas déroger à la règle selon l'ONF, l'Office national des forêts, gestionnaire des forêts des collectivités. Produire, protéger et accueillir. Le point avec Guillaume Béal, il est responsable ONF de l'unité territoriale du Rhône.
Donc on est gestionnaire des forêts des collectivités, c'est-à-dire qu'on cadence les coupes, les travaux, bien sûr en accord et en travail de binôme avec les collectivités propriétaires, avec le triptyque produire du bois, accueillir le public et protéger la biodiversité. Alors du coup, chaque forêt a un document d'aménagement, c'est-à-dire que c'est un grand document qui fait un état des lieux à un instant T sur la forêt, qui reprend également les objectifs du propriétaire, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un secteur à l'autre, d'un propriétaire à l'autre, et qui derrière va décliner les coupes, donc les coupes de bois, à quel moment on coupe, sur quelle parcelle, quelle intensité, destination des produits, et qui va cadencer également les travaux potentiellement de reboisement, d'amélioration, mais également d'accueil du public ou de protection de la biodiversité, parce qu'on a quand même des enjeux forts en termes de biodiversité en forêt. Sur le département du Rhône, on gère à peu près 4% de la forêt publique, soit à peu près 4000 hectares. Donc pour ça, moi j'ai 4 techniciens qui ont à peu près 1000 hectares chacun en gestion. On gère uniquement des forêts publiques. On a la possibilité de gérer des forêts privées, mais sur le secteur, on n'en a pas. Aujourd'hui, nos partenaires sont des collectivités territoriales. Donc le département, qui pèse 50% quand même des surfaces, 1800 hectares. Et après, des communes, communautés de communes, quelques établissements de santé et quelques sections de communes. Donc, les propriétaires sont des habitants de hameau. Les attentes des propriétaires, aujourd'hui, elles sont multiples. Elles étaient vraiment peut-être très focus sur vraiment la production de bois et le volet vraiment économique d'alimentation de la filière et de l'économie d'une commune, parce qu'on avait des communes dont une bonne partie du budget communal était assise sur les recettes de bois. Et puis on voit poindre de plus en plus la prise en compte de la biodiversité, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des coupes n'importe comment, on peut produire du bois tout en protégeant la biodiversité et d'accueil du public. On a aujourd'hui une attente sociétale très importante d'accueil du public parce que c'est un îlot de fraîcheur, parce que la balade dominicale elle se fait en forêt, etc. Donc on a un attachement fort à la forêt, renforcé par les confinements. On a eu une explosion des fréquentations avec les confinements. Donc on a un vrai besoin sociétal de pouvoir se balader et du coup, pour les collectivités, d'accueillir ce public en forêt. L'accueillir ne serait-ce que par des aménagements, mais aussi, le pendant, c'est qu'on a de temps en temps des fréquentations un peu indésirables. Notamment, on observe quand même une petite explosion des fréquentations motorisées en forêt. Et ça, on a quand même une vigilance particulière là-dessus.
Et en ce qui concerne effectivement aussi le réchauffement climatique aujourd'hui, est-ce que les pratiques de la gestion de la forêt a changé ?
Alors oui, donc le réchauffement climatique, c'est quand même une thématique sur laquelle on travaille depuis longtemps, mais qui semble vraiment s'accélérer ces dernières années. On a des stress hydriques vraiment très marqués depuis, on va dire, 2018. Les premiers dépérissements, ils sont arrivés dans la foulée, 2019. Et on observe vraiment des mortalités importantes sur des essences les plus fragiles, celles qui consomment le plus d'eau, et sur le Beaujolais, ça va être le sapin et l'épicéa. Donc on a des mortalités importantes en sapin et en épicéa. Cet été, on a encore eu un déficit hydrique très marqué, donc on a encore des dépérissements et on va encore certainement avoir des répercussions sur le printemps et l'automne prochain. Donc malheureusement, on doit parfois opérer des coupes rases, c'est-à-dire couper l'intégralité du peuplement pour assurer cette valeur de sauvegarde. Et derrière, on devra passer par une phase de reboisement. Alors avec des essences on dit adaptées au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de pousser aujourd'hui dans notre climat actuel, mais surtout qu'ils seront capables de pousser dans un contexte climatique qui sera celui dans 50 ans et qui sera vraisemblablement bien plus chaud et avec des répartitions de pluviométrie bien différentes que celui d'aujourd'hui. En ce moment, on va chercher des essences beaucoup plus méridionales, notamment pour la partie résineuse, dans tout ce qui va être pin ou sapin méditerranéen.
Donc on est obligé en quelque sorte, effectivement, d'aller chercher des espèces qui vont mieux s'acclimater,
c'est ça.
Pour en quelque sorte compléter la perte.
Oui, c'est ça. Du coup, le challenge, c'est d'aller chercher des essences beaucoup plus méridionales. Alors, avec cette vraie contrainte, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des hivers encore très froids, donc on ne peut pas aller non plus chercher vraiment totalement au sud. On a encore des hivers très froids, et certaines des essences, comme les pins maritimes, ne vont pas forcément encore résister à ces gros froids. Donc, à chaque fois, il y a une vraie question. Chaque projet est bien spécifique et bien différent, et on se pose bien la question de l'adaptation de la nouvelle essence, quand il y a transition, vers une essence plus méditerranéenne. Et il y a une deuxième vigilance, c'est que on essaye vraiment d'éviter tout ce qui va être monoculture, c'est-à-dire de vraiment diversifier nos plantations, de jamais mettre une seule essence mais plusieurs, et toujours d'y inclure une dose de peuplement feuillu, donc potentiellement des chênes pubescents, voire des essences beaucoup plus méditerranéennes, voire du chêne vert, on n'en est pas tout à fait encore là, mais du frêne oxyphile, des choses comme ça.
C'était Guillaume Béal, responsable ONF de l'unité territoriale du Rhône, pour la filière bois du Rhône. Nouveau, l'accueil d'une toute récente école de production sur le site de la pépinière d'entreprise Créacité de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. L'initiative devrait peut-être permettre de favoriser la création d'un campus industriel et artisanal, comme nous l'explique Myriam Cady, vice-présidente au développement économique, à l'emploi, l'insertion et à la formation.
Ça a été un concours de circonstances heureux, puisque nous, au niveau de l'agglomération, nous envisageons de faire une extension de Créacité. Créacité, pour reprendre l'historique, existe depuis 2002 et est une pépinière d'entreprise. Donc notre rôle, c'est d'offrir des loyers à des tarifs préférentiels des entreprises qui démarrent, mais l'accueil de ces entreprises ne dure que 4 ans. Donc au bout de 4 ans, elles retrouvent le niveau du marché immobilier normal sur le territoire. Et dans ce contexte-là, nous avons rencontré M. Boulanger qui recherchait de l'espace pour héberger l'école et son projet de création de l'école de production. Donc on a rapproché les deux projets, ce qui va nous permettre demain de créer un campus industriel et artisanal articulé autour de cette école. Comme aujourd'hui l'école travaille déjà pour un certain nombre d'entreprises du territoire dans de la production de petites séries, pour qu'on soit très proche du besoin réel des entreprises et pas uniquement dans un environnement éducatif, l'objectif c'est de pouvoir accueillir des petites structures industrielles qui pourront créer des synergies avec l'école. C'est un petit peu la finalité du campus. En tout cas, sur le territoire, oui, c'est une première, sachant qu'aujourd'hui, on a une vraie réflexion plus élargie également avec l'éducation nationale pour avoir un maillage du positionnement des centres de formation qui soit cohérent, qu'on ait du post-bac, par exemple, au campus du Beaujolais, ex-campus du Martelet, qu'on ait ce maillage avec des distances d'accessibilité qui sont intéressantes avec le campus de Créacité et demain également sur le projet d'extension de la gare.
Surtout qu'au niveau de ces différents pôles d'enseignement, le public n'a rien à voir finalement, il n'y a pas de concurrence.
Non, c'est une école privée mais qui prépare à des diplômes qui font partie du référentiel d'éducation nationale.
Et qui a pour objectif effectivement de former des jeunes de la proximité pour qu'ensuite ils puissent trouver du travail sur le territoire.
Tout à fait.
C'est ça,
hein. Donc, l'idée, c'est effectivement de former des jeunes du territoire pour pouvoir ensuite les positionner dans les entreprises du territoire. Ça, c'est le cercle vertueux idéal. Alors après, effectivement, l'essentiel, c'est de pouvoir et générer des ressources pour le marché de l'emploi qui, comme vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui est en tension. Donc on ne trouve plus d'opérateurs, on a beaucoup de mal à trouver des ressources dans les entreprises. Donc l'objectif, c'est effectivement de créer ce cercle vertueux, les études sur place, trouver de l'emploi en local, et là, on aura gagné.
C'était Myriam Kadi, vice-présidente au développement économique, à l'emploi, à l'insertion et à la formation pour l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, dans le cadre de l'accueil pour la rentrée d'une école de production sur le site de la pépinière d'entreprise Créacité, à Villefranche-sur-Saône. Exposition par la brèche des nuages de l'artiste Jean-Philippe Aubanel au hangar 717 à Glizé, du 10 septembre au 9 octobre. L'artiste Jean-Philippe Aubanel nous accueille dans son atelier et nous engageons avec lui une libre expression.
Tout ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est ce que je ne peux pas expliquer. Pour paraphraser des célèbres auteurs des années 70, s'expliquer, c'est s'excuser. Je suis d'avis de dire que le langage trahit la vision. Donc si je vous parle tout de suite de la fin, c'est-à-dire faire preuve d'une éloquence muette, ça ne nous arrange pas beaucoup, puisque avec vous, il faut parler. Alors, je suis à la question, mais est-ce qu'il faut savoir pour mieux voir ? Que faut-il savoir pour mieux voir ?
Alors, ça me suscite ce que vous venez de dire d'une interrogation en me disant, est-ce que finalement vous considérez que vos œuvres ne sont pas des achèvements, mais plutôt un commencement ?
Oui. Alors après, les formules, elles sont ce qu'elles sont, mais ça me va. Je dirais qu'elles sont... je fais très souvent des animaux qui ressemblent plutôt à des chevaux. Donc, j'en ai fait dans la dernière exposition et j'appelle ça des inachevaux. Donc effectivement, c'est forcément inachevé, donc c'est forcément frustrant et c'est peut-être pour ça que je continue. Mmh. C'est-à-dire que avant d'avoir terminé, je suis déjà dans l'autre, dans le prochain, et c'est pour ça que je suis seul dans l'atelier, moi. Donc, je ne me parle pas à moi-même, mais souvent on me demande, vous auriez pu me demander une question du genre, mais à quoi pensez-vous quand vous peignez tout ça ? Ben écoutez, quand je peins, je ne pense pas. Je pense après, en étant le propre spectateur de ce que je viens de commettre, mais les mots, je suis très sceptique vis-à-vis des mots. Donc, la magie de la radio, moi je suis issu d'une famille de prolétaires italiens dont les arrière-grands-parents. Vivait à travers la radio, donc la parole est évidemment, on est tous des êtres parlants, donc vous en faites un métier. C'est très difficile, je trouve, de pas de traduire, mais de parler de son travail. Par contre, parler autour, peut-être avoir un discours flottant autour en disant moi en ce moment j'ai l'impression que j'utilise des couleurs qui n'ont pas de nom. D'habitude, j'essaye de voir et nommer les couleurs. Et là, il se trouve que, par exemple, dans ces choses comme ça, là, je trouve qu'il y a des couleurs, des teintes que je ne nomme pas. C'est des couleurs, des mélanges que je fais. Je fais mes couleurs moi-même. Donc, d'habitude, j'arrive à classer plus ou moins. Et là, il y a comme un délassement du travail, la couleur mélangée au blanc, des choses qui sont superposées.
Par la brèche des nuages de l'artiste Jean-Philippe Aubanel qui expose au hangar 717 à Glizé du 10 septembre au 9 octobre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelad, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelad.